quel secret.
Très bon. Ouais. Moi, je pense oui,
il maîtrise, il maîtrise bien la sélecta.
Le digger le plus doué de d'Angers quand même. Voilà. Devrait sortir ses belles pépites.
Donc Hervé le 12 au Léon Carré et voilà. Ariane Chabada le lendemain.
Exactement.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire ce week-end. Et ben on vous dit à dans deux semaines.
Dans deux semaines.
Ciao.
Bisous. Bisous.
Bye bye.
Ciao.
Ciao.
Chase you out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. On se retrouve juste après le générique. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Et sachez, messieurs, dames, qu'elle est assez fournie en ce mardi 9 avril 2024. Beaucoup d'infos à décrypter sur les clubs locaux notamment, et puis également sur toute l'actualité internationale avec notamment les quarts de finale de Ligue des Champions que vous attendez sûrement, qui vont démarrer d'ailleurs dans quelques minutes. Autour du plateau, nous avons deux sortants, mais du coup deux entrants. Max qui voilà est retourné à ses occupations. Faustin qui malheureusement, n'est pas disponible ce soir car il s'est blessé. On lui souhaite un très très bon rétablissement. une mauvaise chute. Voilà, qu'on espère pas trop grave pour lui. Il sera de retour, j'espère, la semaine prochaine ou bien la semaine d'après, le temps qu'il se remette de tout ça. Il y a quelqu'un qui est toujours là, c'est Clément qui était là donc la semaine dernière et qui est encore là. Salut Clément, comment ça va ?
Salut Alex, salut à tous, moi ça va super, malgré une défaite ce week-end. Mais bon, c'était face à Bocuse qui est bien supérieur à nous, donc on a perdu seulement 3-2 dans un match accroché, donc assez fier de notre performance. Et puis hâte de tout ce qui va se passer cette semaine avec la Ligue des Champions, le SCO, tout ça, ça va être assez cool.
Palpitant. Ouais, palpitant. On rappelle, voilà, tu joues pour Montreuil, oui, en foot, ça. Voilà. Et donc défaite ce week-end. Un homme qui fait son retour est parmi nous, à ma droite, presque un mois d'absence. C'est Cédric qui est avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien. Ça y est, moi aussi j'ai un contrat de partenaire, de part-timer, comme The Rock maintenant.
D'accord, ok.
Je fais des petites apparitions.
De temps en temps.
Non, bah ouais, les joies du travail. Hein,
les joies du travail, bien sûr.
Et puis les aléatoires aussi de la vie qui t'empêchent à la dernière minute, mais bon.
Il n'y a pas de souci. Heureusement, il y a toujours quelqu'un pour. Il y a toujours des gens pour assurer Génération Sport.
Ouais, c'est ça, maintenant. Oui. On a donné notre temps, faut qu'on se repose maintenant.
Bien sûr. t'as pu apprécier les derniers événements sportifs
Ouais.
Qu'est-ce que t'as retenu récemment?
Que le SCO fait des conneries.
Oh,
y a pas à dire.
Évidemment.
Y a pas à dire. Ah, mais c'est bien. Alors, l'hiver est fini, on voit que la neige fond comme leur poing.
Oh. Oui, c'est ça.
Non, bah après, ouais, je suis un petit peu quand même tout un peu de loin. Bon. Félicitations au U20 quand même en hockey.
Oui, oui.
De rien, voilà, c'était le bon point, je trouve, de la semaine dernière. Quand
d'ailleurs,
même.
Tu n'es pas revenu, je crois, depuis l'élimination des Ducs.
Ouais.
Donc peut-être qu'on en touchera deux mots, puisqu'il y a une info, bon, qui est pareil, sortie il y a plus d'une semaine maintenant, sur notamment le départ du coach.
Ouais.
Tu nous donneras un peu ton ressenti sur l'élimination.
Ouais, bah, puis surtout, enfin, encore, je pense, de la politique du club aussi, on pourra en parler là-dessus, mais.
Donc voilà, bah bon retour, j'ai envie de te dire, ouais, comme si ça faisait des années que t'étais pas venu. Mais voilà, je pense que tu n'as rien perdu.
Non, puis on a suivi quand même un petit peu ce week-end.
Bien sûr.
Malgré que c'était le week-end de WrestleMania.
Oui, évidemment, j'imagine que t'étais à fond là-dessus.
Ouais, ça a été dur. Ça a été dur, hein, quand t'as plus l'habitude de regarder ça la nuit, là vivement le prochain pay-per-view au mois de mai, qui sera en France, à Lyon.
Et oui.
Et l'avantage, c'est qu'il sera 19h.
Voilà, ce sera plus facile pour le décalage horaire. Mathéo est également avec nous. Mathéo qui était venu il y a 2 semaines.
C'est ça, le 26 mars, exactement. Bonsoir Alex.
Bonsoir Mathéo. Pour rappeler, tu es service civique à Radio G, notamment dans l'émission Topette.
Exactement.
Animée par Pierre Benoît. Et donc, tu viens ici, voilà.
J'étais en direct il y a une heure, donc.
C'est ça, voilà. Donc, voilà, les auditeurs reconnaissent peut-être ta voix.
Il a fait notre ingé son, t'as vu, c'est bien maintenant.
Oui, c'est ça, oui, il a réglé les casques. Il est à l'aise. Donc voilà, tu viens donc avec nous changer sur le sport.
C'est ça, carrément.
Tu peux rappeler un peu tes domaines spécifiques sur le sport?
Moi, j'ai un domaine de prédilection, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui n'est pas très original, c'est le football. Je suis énormément de football. Rien que le week-end dernier, j'ai regardé 5 matchs. Mm-hmm. Voilà, je pourrais en parler un petit peu plus longuement si tu veux. Et sinon, non, j'aime beaucoup le sport américain aussi, que je regarde moins parce que les horaires forcément font que. Donc le football américain, pour le coup, ça, j'essaie de m'y tenir. La NBA un peu moins, mais sinon j'essaie d'être omnisport, on va dire.
Très bien. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je vais commencer sans plus tarder. Le sommaire, il est assez simple, avec une partie locale où on reviendra sur les résultats du week-end pour le SCO, le Scandale, le AB, l'UFAB, Cholet Basket, et on fera un point sur les autres clubs du département. Et puis au niveau international, il y aura une grosse page justement dédiée au football et au quart de finale des champions qui commence dès ce soir. Clément, tu nous feras un petit point sur les résultats de Champions Cup, puisque 3 clubs français sont qualifiés pour les quarts de finale qui commencent donc ce week-end. Sinon, des infos en termes de, évidemment, de basket, NBA, aussi Eurocoupe. Hein, ce soir, je crois que c'est la finale, hein, entre Paris et Bourg-en-Bresse. Et puis Formule 1, tennis, cyclisme et même un peu de handball si on a le temps. On va commencer sans plus tarder avec le gros rendez-vous de ce week-end. C'était ce derby entre Angers et Laval en Ligue 2. Voilà les Angevins qui avaient rendez-vous avec leur rival Lavallois pour essayer de reprendre un peu d'avance sur justement ce club qui est quatrième de Ligue 2 et pour pouvoir aussi perdurer dans cette course pour la montée. Malheureusement, match nul un partout face au Tango. Ouverture du score de Pablo Pagis, hein, le fils de Michael, il me semble, qui évolue donc maintenant à Laval et qui a marqué dès la quatrième minute de jeu sur une erreur de relance de Ould Khaled. Abdelli a égalisé assez tardivement sur penalty à la 87e. Voilà, pour résumer un peu le match, je sais pas si les gars autour de la table vous avez pu le voir. Il y a eu une domination quand même assez stérile hein, des Angevins pendant toute l'entièreté du match. Je trouve qu'il y a eu quand même aussi une manque de qualité devant le but au niveau technique notamment. Et puis voilà, dans les occasions, à noter du coup le gros match de Mamadou Samassa dans les buts de Laval hein, jusqu'à son penalty quand même provoqué sur Diony qui entache un peu donc son match. Mais les Lavallois qui ont très bien joué le coup et que j'ai trouvé assez bon, même s'ils ont quand même défendu une bonne partie du match. Messieurs, voilà, déjà, est-ce que quelqu'un a vu le match pendant un résumé, quelque chose?
Non, j'ai vu un peu la première période.
Ouais.
But à la quatrième minute, ça fait quand même mal dans un derby. Hein.
Ah bah tout de suite. Ça...
Tu sens tout de suite les Lavallois, ils étaient là pour de toute façon aller chercher la victoire. Hein. Ils ont
bien sûr.
Au moins voilà, ils sont entrés dedans, direct entrée de jeu. J'ai envie de dire, c'est un peu ça fait plusieurs matchs quand même où on se fait peur, qu'on court après le score. Hein. On fait des comebacks, mais au bout d'un moment, ça va être dur. Hein.
Bah oui. Bah c'est. On va dire que c'est ni une mauvaise opération, ni une bonne opération. On va dire que c'est assez neutre, même
ça
si...
Ça permet de conserver la deuxième place, mais...
Non, alors, on est égalité quand même avec Saint-Etienne, j'allais le rappeler justement, mais Saint-Etienne qui repasse quand même devant à la différence de but. Voilà, on reste à égalité là-dessus avec 54 points, il me semble. Toujours 5 points d'avance sur Laval et 7 points de retard désormais sur Auxerre qui... vraisemblablement se dirige vers un titre de champion. Bon, voilà. Clément, qu'est-ce que t'as pensé
pour moi,
de ce
c'est pas fini. Hein. Je parlais pour le titre de champion. Il y a quand même Saint-Etienne qui est sur 8 matchs sans défaite et qui va, à mon avis, continuer la série. Pour le SCO, l'ambiance.
Oui, on en a j'allais pas parlé, en parler. Ouais,
l'ambiance,
en parler,
ouais. C'était vraiment quelque chose. J'ai pas pu voir le match parce que je jouais en même temps, mais
plus de 15 000 personnes.
Ouais, sur les résumés, je pense que c'est l'une des meilleures ambiances depuis le début de l'année, voire la meilleure ambiance.
Ouais, pour avoir vu le match, oui, c'est clair. Et puis, il y a un très beau tifo du Club de la Butte au début avec les fameux blasons de l'Anjou. Il y a eu des fumigènes à la fin du match.
Et même au début.
Ouais. Donc, voilà, ça a été vraiment une très belle fête. Malheureusement, voilà, il n'y a pas eu la victoire. Et puis, voilà, si on veut revenir sur le sportif, c'est quand même un résultat un peu décevant. Je sais pas ce que t'en penses, Mathéo.
Moi, du coup, de ce que j'ai lu pas mal d'articles, j'ai regardé des résumés. Également, je trouve qu'on y retrouve un petit peu tous les défauts du SCO depuis à minima 2024, voire le début de saison, des problèmes défensifs. Le SCO, c'est quand même la dernière défense de Ligue 2 sur l'année 2024. Donc, je pense que c'est assez parlant comme chiffre. Et cette erreur d'Ould Khaled en début de rencontre, elle est quand même plus qu'évitable. Derrière, il y a un joli extérieur du plaid de Pagis, mais bon... ça pardonne pas et toute la rencontre, ouais, derrière le SCO qui galère offensivement, le milieu de terrain, c'est toujours un mystère. Enfin, franchement, je trouve que y a pas réellement de conviction dans ce milieu, il y a pas de plan de jeu réellement défini également. Et derrière, ouais, en attaque, c'est compliqué. On réussit grâce à Diony à obtenir ce penalty à l'expérience, rien de plus. Donc, franchement, pas convaincu de cette performance. Et moi, j'ai du mal à voir le SCO monter en Ligue 1. J'espère qu'ils vont me faire mentir, mais c'est vrai que bon, c'est mal embarqué, on va dire.
Ouais, sur Diony, je suis un peu d'accord. Diony, je trouve qu'il fait pas un très bon match du tout, jusqu'à ce qu'il provoque un penalty sur un éclair.
C'est aussi la qualité des grands attaquants.
Exactement, et c'est comme ça parfois où il a pu sauver un petit peu l'équipe pendant une partie de la saison. Et il a quand même une occasion très rapidement dans le match, assez tôt, mais globalement, je trouve que dans le jeu, sur le reste, il a été quand même beaucoup, il a perdu beaucoup de ballons. Donc voilà, et comme tu disais, au milieu de terrain, c'est vrai que le Capel, on ne retrouve pas un Capel convaincant, ou le Khaled, pareil, on ne le voit pas forcément beaucoup.
Bah, qui est sorti d'ailleurs, ou le Khaled, je ne sais plus si c'était c'est à la mi-temps, en début de deuxième période, qui est sorti, qui a permis après à Abdelli de se recentrer, c'est là où il a été meilleur, et sans doute le meilleur angevin de la rencontre.
Ouais, Abdelli qui fait encore un très bon match, et qui fait une très belle saison, qui, voilà, malheureusement devrait partir, et qui devrait attirer les convoitises sur des clubs de Ligue 1 ou des clubs qui joueront la montée en Ligue 2 l'année prochaine. Voilà un petit peu pour le SCO. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, en disant rapidement également que le prochain match aura lieu lundi prochain contre Grenoble. Grenoble qui était de base un concurrent pour la montée et qui connaît aussi sur l'année 2024 une année assez faible et qui est redescendu à la 11e place. Voilà les Angevins qui vont se déplacer donc au Stade des Alpes, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, et puis il n'y a pas intérêt à perdre contre Grenoble parce évidemment. Que vu la dynamique dans laquelle ils sont Grenoble, je pense que là ça mettrait un coup d'arrêt pour le SCO.
Sachant que les concurrents jouent à peu près tous, il me semble, des équipes assez prenables.
Oui.
C'est vrai que tu voulais.
Oui, puis ils jouent samedi.
Oui, voilà, ils jouent samedi.
Donc l'avantage, c'est que ils auront déjà le résultat et voilà, il n'y aura pas besoin de réfléchir.
Il faudra gagner.
De toute façon, là, faut gagner. Hein.
Voilà.
Déjà de base, mais bon, ça y est.
Oui. Oui, c'est sûr.
Normalement, ça doit te motiver plus d'avoir les résultats.
On va enchaîner avec un autre club du SCO, c'est le SCO Handball qui a joué donc ce week-end et qui a perdu 25 à 32 contre Istres, qui est désormais donc deuxième du championnat. À savoir que les Angevins ont quand même bien négocié le début de la rencontre avec ce score nul de 12 buts partout, je vais y arriver, à la mi-temps, avec donc une défense assez fébrile sur la deuxième période. À noter qu'il y avait Vincent Gérard qui jouait quand même en face, et 9 arrêts pour lui au cours de la rencontre. Dans le même temps, c'est le rival, ou plutôt le concurrent direct pour le maintien, Caen, qui a gagné de son côté et qui passe devant donc les Angevins, qui arrivent à la 15e position dans cette position provisoire donc de relégable. À noter qu'il y a un match ce soir du côté de Sarrebourg. J'essaierai de vous donner un petit update du match. Le match commence à 20h30. Sarrebourg qui est actuellement 10e du championnat. Et puis surtout le gros rendez-vous, hein, ça va être vendredi à domicile contre Caen à 20h30. Voilà, on parlait un petit peu notamment sur nos réseaux sociaux du sprint final qui va attendre toutes nos équipes. Là, clairement, il y a un match ultra décisif à jouer à la salle du Hara. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce match et à supporter le SCO Handball qui, on l'espère, va pouvoir essayer de se maintenir en Pro League. Justement, par rapport au maintien en Pro League, j'aimerais faire un petit point notamment sur ce championnat qui, on rappelle, il y a maintenant 2-3 ans, est passé de 14 à 16 équipes. On constate quand même depuis, et cette saison c'est encore plus parlant, qu'il y a une instabilité financière chez les clubs de Pro League. Le SCO Handball est rarement concerné, et on rappelle, il y a quelques années, le SCO se sauvait justement, en jouant même à l'époque, se sauvait justement grâce à une bonne santé financière, au contraire des autres clubs, et parvenait parfois à se maintenir comme ça. Cette année, il y a quand même 3 clubs qui ont pris des sanctions administratives pour donc des budgets qui ne sont pas aux normes, etc. Il y a donc Massy en décembre dernier et récemment donc Valence et Frontignan. Ils ont tous eu la même sanction, donc 4 points enlevés, dont 1 avec sursis. Voilà ce qui peut-être fausse un petit peu la course au maintien, en sachant évidemment, j'ai déjà dit plein de fois dans l'émission, que le forfait de Villeurbanne restreint les places de relégables à une place. Et donc voilà, ça fausse peut-être un petit peu la course au maintien. Donc à suivre, et je pense, en donnant un petit peu mon avis, que justement ce passage de 14 à 16 équipes, quand on sait qu'il y a déjà une instabilité financière chez les clubs qui sont en voie de professionnalisation, je trouve que cette décision du coup montre aujourd'hui avec ce qu'on voit que ça n'a pas été forcément la décision la plus judicieuse, même si à ce moment-là elle avait aussi profité, on le rappelle, au SCO Handball, et à voir si le SCO peut encore une fois se maintenir comme ça. Et c'est vrai que c'est une histoire qu'on a déjà vue par le passé, des maintiens administratifs pour le SCO Handball.
Ouais, mais c'est toujours compliqué, hein, la gestion de l'argent pour des histoires de maintien, des choses comme ça. Je pense que ça devrait être en dehors, tu joues ton maintien, et en fonction de ça, si t'as pas le budget minimum, on va dire, pour être dans cette ligue-là, bah, hélas, tu passes en dessous.
Après, il y a parfois même...
Et tu repêches une équipe du niveau en dessous qui a le budget. Hein,
je peux comprendre. Après, voilà, notamment pour, je crois que c'est Valence ou Frontignan, il y a une des deux équipes qui a des retards de paiement sur les joueurs, et donc ça, c'est forcément quelque chose que la Ligue ne peut pas cautionner.
Ça, oui, par contre, que les joueurs soient papiers aussi, d'ailleurs.
Voilà, donc là-dessus, évidemment. On suivra donc cette lutte très importante. Hein, je rappelle, ma petite, on faisait des prédictions, je crois, au début d'année, hein, Clément, tu te souviens, je vous avais dit, avec mon flair, je vous avais dit, non, le Scandball, il y aura pas de souci à se faire pour le maintien. Et ben voilà, on se retrouve aujourd'hui avant-dernier, en sachant que le dernier a déclaré forfait. Donc voilà, on suivra ça tout au long de la saison.
On est habitué aux yo-yo qu'ils font, hein, depuis un petit moment, hélas.
Exactement, bah, on espère qu'ils vont se maintenir quand même. On va enchaîner avec le basket. On va commencer par la grosse nouvelle du jour qui concerne l'EAB. Rappeler d'abord que... alors déjà, je vais rappeler le contexte en général. Donc l'EAB a battu donc vendredi soir Denain 82 à 71. C'est un concurrent direct, hein, pour le maintien. Ils sont à ce moment-là revenus d'ailleurs à une victoire du premier non relégable. Hein. On parle évidemment là de Pro B. Denain a directement, après le match, démis de ses fonctions son entraîneur. Et aujourd'hui, on a appris que Ali Bouziane, l'entraîneur de l'EAB, allait quitter club à effet immédiat, d'un commun accord avec la direction qui apparemment n'avait quand même pas trop son mot à dire. Ali Bouziane donc quitte le club pour rejoindre Denain, qui, on le rappelle, est à 2 victoires de l'EAB au niveau du classement et qui joue aussi son maintien. Donc Ali Bouziane va rejoindre directement un concurrent direct pour le maintien en Pro B. Ça arrive également le jour même, donc là d'ailleurs le match a commencé depuis quelques minutes, du match du derby contre Nantes. Et voilà, c'est assez invraisemblable. Il reste encore 6 journées à jouer pour l'EAB. C'est donc John Delay, son premier assistant, qui va prendre en main l'équipe pour les 6 derniers matchs. Situation assez invraisemblable, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même assez fou.
Moi, je comprends pas qu'on autorise ça, en fait.
Bah, ils ont pas le choix. C'est un commun accord, mais, ouais, mais ils ont pas eu le choix.
Enfin, je pense que, enfin, c'est le problème un peu dans le basket avec les transferts, tout ça. Ça peut se faire à n'importe quel moment, hélas. Mais là-dessus, enfin, le club aurait dû dire non, parce que, enfin, tu peux pas aller chez ton concurrent direct pour le sauver, en fait. En gros, littéralement, il s'assoit sur le club où il était. J'en ai plus rien à faire. Enfin,
Et puis l'ironie du sort, évidemment, c'est qu'il vient de battre ce club-là et qu'il a engendré le départ de l'ancien coach. C'est ça qui est assez fou. Il lui prend sa place.
Ce qui veut dire que c'était déjà dans les tuyaux sûrement avant. Parce
peut-être.
Tu prends pas la décision d'appeler tout de suite, quasiment après le match. Ouais.
Pour citer un petit peu le club dans son communiqué, il dit après avoir reçu et écouté le coach Ali Bouziane sur ses motivations professionnelles et ses ambitions de carrière, nous avons pris la décision de mettre fin à notre collaboration d'un commun accord et d'officialiser son départ. Voilà, il avait fait part de sa volonté de s'engager avec le club de Denain et donc ce qu'il considère comme une opportunité professionnelle qu'il ne peut pas laisser passer. Dans ces conditions, il est difficile de conserver un salarié à un poste aussi engageant. Donc voilà, c'est-à-dire que il aurait eu la tête ailleurs un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathéo?
Alors moi déjà j'ai du mal avec l'image que ça dégage du club, parce que forcément on se dit voilà, un club qui perd son coach à, je crois que c'est, il reste 6 journées,
c'est
si
ça.
Je dis pas de bêtises, en Pro B, c'est quand même pas terrible au niveau de l'image. Au-delà de ça, le commun d'accord, je pense que ils ont pas vraiment eu le choix, parce que forcément Angers est dernier, donc dernier, il y a un budget à avoir pour l'année prochaine pour espérer remonter. Forcément, je crois que le coach avait un salaire plutôt élevé et il en voulait encore plus, donc c'est plutôt compliqué. Maintenant, est-ce que pour le coach c'est réellement une aubaine professionnelle? Bon, seul l'avenir nous le dira, mais
pécuniaire sûrement.
Pécuniaire peut-être, ouais.
Mais en tout cas,
on espère pour lui, même si bon, c'est pas très sympa.
Bah, peut-être justement, bah, il a senti le vent tourner, parce que Denain du coup est en position favorable pour se maintenir, ce qui n'est pas le cas pour Angers. Si lui il saisit pas cette opportunité maintenant, il va devoir aller en N1 avec Angers et donc refuser la Pro B avec Denain. On espère sans aucune amertume que Angers se maintiendra et que ça permettra quand même
on va voir ce que ça va
à l'EAB de se maintenir. Donc voilà, info assez dingue du jour. Bon, on suivra évidemment l'évolution. Donc par rapport au match aussi, on vous donnera l'évolution du score pendant l'émission. Donc on rappelle hein, les échéances qui arrivent. Donc avec 6 prochains matchs pour essayer de se maintenir pour le AB.
Ça résume bien un peu leur saison. Hein.
On rappelle aussi quand même que Ali Bouziane a pu décrocher le premier titre et le seul titre à l'heure actuelle de l'EAB. On doit quand même, si on doit un peu tirer son bilan, il a quand même gagné la Leaders Cup, donc de Pro B avec l'EAB. Et voilà, ça reste quand même un sacré accomplissement pour lui dans sa carrière et puis pour l'EAB qui a dû, je pense, prendre aussi ça en compte dans sa décision. On va passer à notre club angevin de basket, c'est l'UFAB qui jouait tout simplement sa place dans les playoffs. Victoire impérative à domicile contre Tarbes et victoire obtenue 71-66. Les Angevines qui vont donc terminer à la 8e position de cette phase régulière de LFB. Les quarts de finale donc vont arriver assez vite, le 19 avril prochain. Ce sera donc un vendredi à 20h50 à Jean-Bouin. Ce sera face aux leaders, forcément, les leaders de Villeneuve-d'Ascq. Grosse équipe qui n'a perdu que 3 matchs cette saison. Et donc voilà, l'UFAM qui va qui va se préparer donc à ses 3e play-off de suite. Les gars, c'est quand même plutôt une bonne performance et une continuité dans les play-offs.
C'est peut-être la qualification la plus douloureuse depuis les 3 saisons.
Même si l'année dernière, ça s'est joué aussi à la dernière journée.
Ouais, mais c'était peut-être plus serré, j'ai l'impression.
Oui.
Enfin, il y avait moins d'écart.
En fait, le concurrent en direct était, fort.
Là, ça a été.
Là, c'est Flamme Carolo, quand même.
Qui vient en play-down. J'ai l'impression que toute la saison a été plus compliquée, quand même.
Ouais.
Dans l'ensemble, pour les joueuses, tout ça.
Il y a eu l'Europe aussi qui a peut-être fatigué les morales. Physiquement aussi, ça a dû être plus compliqué.
En termes de matchs joués en Europe, je pense qu'ils en ont joué autant que l'année dernière, mais c'est
peut-être un peu moins quand même.
Mais c'était aussi les voyages qui étaient un peu plus longs.
Ouais.
Et puis bon, mine de rien, tu joues Galatasaray, ça a été quand même deux gros matchs qu'elles ont fait. Je pense que oui, tu y laisses aussi de l'énergie. Mais en tout cas, voilà, elles ont trouvé ce qu'il fallait au bon moment. Il y avait plusieurs scénarios, même si elle perdait sur ce match-là.
Il fallait que Flamme Colorolo perde.
Et en cas de soucis, il y avait encore le prochain match qui pouvait peut-être les sauver.
Il
y avait 3 scénarios. Il y avait 3 scénarios, mais le troisième était beaucoup plus compliqué, mais
En tout cas, il fallait qu'elle gagne.
En tout cas, ils ont trouvé les ressources qu'il fallait au bon moment.
Et encore une fois, un gros match de la Lacan qui est très forte sur la fin de saison. Mathéo, un petit mot sur l'UFAM?
Bah écoute, c'est une belle qualification, ça prouve qu'il y a de l'envie au sein du club aussi d'arriver avec autant de fatigue. C'est une fin de saison, donc, enfin presque fin de saison, après il y a les playoffs, mais on reste quand même sur un enchaînement de matchs fort. Et puis c'est hyper important d'avoir des équipes qui réussissent aussi sportivement parlant sur le territoire, surtout que le basket féminin c'est quand même assez marqué en Anjou. On peut parler d'Avrier, on peut parler de Saumur, enfin il y a quand même des belles équipes en Anjou, dans le Maine-et-Loire.
Lamboisière aussi.
Lamboisière que je ne connais pas, mais que
LMB voilà, qui c'est un regroupement donc de Saint-Lambert-la-Poterie,
Saint-Jean-de-Linière,
Saint-Mathurin-sur-Loire. Si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Bref, mais c'est vrai que c'est une terre de basket féminin. Hein,
exactement. Donc c'est une bonne chose, et puis on va voir si elles vont réussir l'exploit de battre
Villeneuve-d'Ascq. C'est ça, Villeneuve-d'Ascq. Ça va être un gros morceau hein, pour les joueuses de l'UFAB, à qui on souhaite bonne chance. Voilà un petit peu.
Il va falloir chercher un écart important dès le premier match. Hein.
Bah, il va falloir gagner déjà, ça pourrait être pas mal. On va enchaîner avec Cholet Basket.
Par contre, il y a quand même une news aussi importante vis-à-vis de l'équipe.
Oui.
Le retrait du numéro 9.
Le retrait du numéro 9.
Le maillot d'Isis Arondo.
Ah ok, le maillot a été retiré, maillot donc d'Isis Arondo, joueuse qui est là depuis pas mal de saisons maintenant.
Depuis
plusieurs saisons et qui
depuis
va donc,
2017, ouais.
2017, donc 7 saisons et donc son numéro 9 qui va
juste après le match, il y a une petite cérémonie où le maillot était
okay, très
officiellement
bien, magnifique, un peu comme Tony Parker avec l'équipe de France.
Voilà.
On a notre Tony Parker à l'UFAM. On va enchaîner avec Cholet Basket. À noter également un autre départ. Et oui, il y aura beaucoup de turnover sur les bancs des clubs du 49, puisque Laurent Villa a annoncé il y a quand même quelques semaines maintenant qu'il allait quitter le club à la fin de la saison à cause d'une proposition assez qu'il juge indigne de la part du club en termes de contrat. Ce week-end, pour revenir au terrain, il y a eu une défaite donc à domicile contre Gravelines-Dunkerque, 84-72, qui met fin à une série de 4 victoires consécutives. Le CB qui redescend à la 7e place de la phase régulière de Betclic Elite. Il reste aussi, comme en Pro B, 6 matchs de saison à jouer avant justement cette phase de play-off. Prochain match du côté de Roanne, dimanche à 16h30. On va enchaîner avec les Ducs d'Angers assez rapidement puisqu'il est déjà 20h30. Et oui, à noter la news, je pense qu'on n'en avait pas parlé sur les dernières émissions, mais elle est quand même assez majeure. C'est le départ du coach principal Jason O'Leary, le Canadien qui s'en va des Ducs d'Angers 1 an et demi après son arrivée au club. Dans le communiqué qui avait été publié à l'époque, les résultats notamment de la saison ont joué dans cette décision, puisqu'on rappelle, les Ducs n'ont pas retrouvé les demi-finales de play-off de Ligue Magnus, et c'est une première depuis 2019. Cédric, justement, on t'avait pas vu depuis cette élimination-là, qui remonte quand même à 3-4 semaines. Justement, qu'est-ce que t'en penses, toi, notre expert des Ducs, qu'est-ce que t'as à dire sur cette élimination précoce des Ducs?
Fallait pas être favori des playoffs.
Oui, c'est ça, parce qu'on termine deuxième.
On termine une deuxième, mais quand tu regardes la finale, là, il y a Rouen qui est là, comme toujours, mais qui est en difficulté contre Bordeaux.
C'est ça.
Et Bordeaux, personne n'aurait prédit à cet endroit-là. Tout le monde voyait un des trois premiers. Donc les playoffs, c'est à dire que cette année au moins ils ont été disputés peut-être plus ardument par les clubs qui étaient pas forcément à leur aise sur la saison. Et moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est on change d'entraîneur tous les ans.
Ouais, quasiment.
Quand ils étaient en cours de saison, ouais. Voilà, ouais. Ça, je comprends qu'il y a un projet, tout, on veut aller gagner cette Magnus, mais à un moment, va falloir installer de la stabilité. Ouais. On sait que, ok, le transfert des joueurs, tout ça, ça peut aller très vite pour X ou Y raison, on peut très vite s'arrêter aussi. Donc, au moins essayer de garder une équipe à la tête qui soit stable, qui insuffle peut-être un nouveau style de jeu, ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ça va payer, tu vois, c'est encore une année de plus à changer d'entraîneur, ou là on va falloir trouver quelqu'un qui va vraiment apporter sa patte, et là qui va vraiment changer les choses, mais je vois pas comment tu peux faire mieux que cette saison-là en termes de chiffres et
de phase régulière, quoi.
En phase de régulière, oui.
Mathéo, qu'est-ce que t'en penses donc de...
Moi, je pense que je suis déçu comme beaucoup d'Angevins. C'est vrai que c'est dommage. On avait, je pense, alors moi, je suis pas un grand consommateur de hockey non plus, mais de ce que j'avais vu dans le journal quand je lisais, en fait, on avait, je pense, là, une équipe pour presque aller au bout. Tu me diras si je me trompe, Cédric, mais
sur le papier, ouais, on avait une équipe solide. Ça allait demi facilement normalement.
Ouais, donc déjà
en vue en plus de ce qu'on a vu sur la saison.
Ouais, puis il y avait des possibilités de voir plus, peut-être un exploit, c'est ça aussi sport. Ouais. Donc dommage, déçu. Est-ce que les Ducs vont revenir plus fort l'année prochaine? Ça, c'est une question auquel je pense aujourd'hui on peut pas apporter de réponse.
On est habitué à les voir en rebondir, mais le rebond c'est bien, mais au bout d'un moment
ça marche pas trop.
Voilà, ouais.
Ça marche pas jusqu'au bout. Donc bon, je pense que comme tout Angevin, je vais être confiant pour l'année prochaine. Je vais espérer une qualification en play-off déjà, je pense que ça c'est la base de toute chose.
Et puis après, son objectif, ouais.
Oui, et puis après aller chercher plus loin, pourquoi pas les demi-finales, on l'espère. Mais voilà, je pense que je reste optimiste pour la suite.
Non, et puis on va peut-être pouvoir compter sur les jeunes là, justement là, qui ont remporté leur première l'équivalent, on va dire, de la Magnus pour les U20. Il y a peut-être moyen d'aller piocher dans ce vivier là. Du coup, tu fais confiance peut-être plus aussi aux joueurs issus du club.
Pourquoi pas?
Ça peut être une solution. Enfin, je pense que là, ils ont les cartes en main. Il va falloir trouver, je pense, le bon entraîneur qui va vraiment être en accord aussi avec sûrement les envies au niveau de la présidence du club. Et après, bah, avoir de se, peut-être être moins ambitieux cette année, jouer peut-être que le championnat et un petit peu délaisser la Coupe de France. Faut voir après.
Merci à toi, Cédric, pour cette analyse sur voilà cette élimination des Ducs d'Angers qui a été assez précoce dans la saison. Rapidement sur les autres clubs du Maine-et-Loire, on a les Loups d'Angers qui continuent leur lutte acharnée hein, pour le maintien en Pro B. Il leur reste 4 matchs hein, aux Angevins pour se maintenir. Prochain match d'ailleurs à Nîmes-Montpellier pour le 21 avril. Et puis Cholet qui se rebiffe hein, sur la fin de saison avec 7 points sur les 3 derniers matchs, dont un nul face au leader, le Red Star. Il y a eu un match à rebondissement ce week-end en déplacement à Lyon contre le Gol FC avec cette victoire à 4-3 à la 91e minute et ce but aussi du milieu de terrain de Tom Renault qui a un petit peu voilà fait le tour des réseaux sociaux. Le maintien reste encore lointain avec 10 points de retard sur le premier non relégable. Voilà le SO Cholet qui se dirige quand même vers la Nationale 2. On va rapidement faire une petite pause musicale et puis on revient juste après. On va s'écouter Dua Lipa et son titre Houdini et puis voilà, on se retrouve juste après. C'était Dua Lipa et son titre Houdini. Vous êtes de retour dans Génération Sport, l'émission sportive de Radio G. On est ensemble donc jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Vous êtes bien donc sur le 101.5 FM. Vous nous écoutez peut-être aussi depuis Internet et le site www.radio-g.fr ou bien sur les plateformes d'A+. Voilà un petit peu pour l'actualité locale qu'on a pu énumérer depuis 20h. On va revenir au football maintenant. Avant de parler de la Ligue des Champions de ce soir, Clément, tu vas nous faire un petit point sur les résultats de la Ligue 1.
Oui, ce week-end, c'était la 28e journée de Ligue 1 et vendredi soir, on a eu le choc de cette journée entre Lille et l'OM. Et c'est Lille qui l'a emporté et qui coule un peu plus l'OM avec cette victoire 3-1. Ensuite, samedi, on a eu deux matchs nuls assez décevants, un partout, avec dans un premier temps Lens, le Havre, et ensuite le PSG avec une équipe largement remaniée en vue du match qui se profile pour demain, dont on va reparler, qui se voit accroché par Clermont. Ensuite, dimanche, à 13h, on a eu Brest qui continue sur sa très bonne lancée avec une victoire 4-3 face à un Metz accrocheur. L'après-midi, on a eu trois matchs plutôt ennuyants avec Nice-Reims qui s'est soldé par un 0-0, Toulouse-Strasbourg également 0-0 et Montpellier qui l'emporte contre le cours du jeu 2-0 aussi face à Lorient. À 17h, on avait aussi une autre grosse affiche de cette 28e journée avec Rennes-Monaco. Et c'est Monaco qui sort vainqueur de ce match 1-0 grâce à un but de Akliouche. Et les deux équipes ont ensuite été réduites à 10. Et pour finir, et ça va te faire plaisir Alex, c'est la nouvelle victoire de Lyon sur la pelouse des Nantais.
Et oui.
3-1 et Lyon qui revient à un petit point de l'OM et pas très loin de... L'Europe.
Place. Et oui, c'est assez fou. Ça, j'avoue que c'est assez fou, mais bon, écoute, les miracles arrivent. Big up à Pierre Sage.
Oui.
Quel homme.
Personne n'y croyait.
Mais moi, j'y croyais. Non, c'est faux. Merci Clément pour ce point sur la Ligue 1. On va maintenant s'attacher à revenir sur la Ligue des Champions qui va reprendre ses droits dès ce soir dans 20 minutes. Voilà le coup d'envoi des deux premiers quarts de finale. Allez, on a donc le Real qui reçoit Manchester City et Arsenal qui reçoit le Bayern Munich. Avant de demander autour de la table vos petits pronos sur chacune des rencontres, on va commencer avec la composition des quatre équipes qui jouent ce soir. Le Real qui aligne dans les buts Lounine, Carvajal, Rudiger, Tchouaméni en défense centrale et Mendy à gauche, voilà pour la défense du Real. À noter également au milieu de terrain Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham et un duo offensif composé de Rodrigo et Vinicius Junior. Du côté de City, ce sera Ortega dans les buts, avec Ederson qui est laissé sur le banc. Une défense à 4 avec Vardiol, Stones, Diaz, Akanji. Un milieu composé notamment de Kovacic, Rodri, Bernardo Silva en 10, Foden sur le côté droit, Jack Grealish sur le côté gauche et Erling Haaland en pointe de l'attaque. Au niveau de Arsenal qui joue contre donc le Bayern Munich, hein, Arsenal, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas vu ce stade des quarts de finale de Ligue des Champions. Dans les buts, Raya, White, Saliba, Gabriel et Kivior sur la défense. Au milieu de terrain, c'est du classique. Rice, Jorginho, Odegaard. Une attaque avec Saka, Havertz et Martinelli. Et pour le Bayern, on a Neuer dans les buts, Davis, Dyer, De Ligt et Kimmich en défense. Un milieu avec Moussiala en 10 et un double pivot avec Goretzka et Konrad Leimer, Gnabry et Sané sur les côtés, du classique encore une fois, et puis Kane devant. Voilà pour les compositions d'équipe. Ça nous fait deux très très belles affiches, voire peut-être même les plus prestigieuses de ces quarts. Messieurs, je vais commencer par Real City. Rapidement, votre pronostic, un petit peu votre sentiment sur cette confrontation. Je vais commencer par Clément. Plus Real ou plus City?
Objectivement, pose une colle.
Objectivement.
Ouais. C'est assez compliqué parce que c'est deux. Bah, pour moi, c'était les deux favoris de la compétition parce que le Real, même si dans leur championnat, ça va pas. En Ligue des Champions, ils auraient quand même roulé sur tout le monde. Je vais dire City, mais sans grande conviction parce que ça va être un match très serré. Mais City qui est quand même. Pour moi, l'une des meilleures équipes de ces 5 dernières années, même s'ils n'ont pas réussi vraiment à concrétiser,
c'est quand même
une très bonne équipe.
On rappelle sur la double confrontation.
Voilà, ouais.
C'est ça. Mathéo, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, c'est un match qui est très difficile à juger. Pour moi, je dirais, c'est intéressant dans les dispositifs tactiques parce que déjà, on n'a pas De Bruyne, donc voilà, qui est de retour de blessure. Donc ça, c'est une pièce manquante. Après, on a la très bonne forme de Phil Foden et le parallèle qui va être possible de faire avec Bellingham. Et puis Rodri est toujours là, un petit peu la plaque tournante de cette équipe de Manchester City. On a également deux formes qui sont plutôt, alors j'ai envie de dire similaires sur les derniers matchs en tout cas, parce que le Real a perdu, je crois, 2 matchs cette saison.
C'est très peu.
Très très peu. Et City commence à revenir bien, 8 buts sur les 2 derniers matchs, mais en encaisse également, ce qui était un petit peu, au contraire, la marque de fabrique, cette belle défense de City qui paraissait imprenable l'année dernière. Pour moi, je pense que je partirais sur je voulais partir sur un nul de base, mais peut-être sur une victoire du Real, parce que le Real n'a pas le choix. Manchester City, sur les 26 dernières rencontres de Ligue des Champions à domicile, c'est, je crois que c'est 24 victoires et 2 nuls, donc aucune défaite. Si le Real veut aller chercher une qualification, ils vont pas avoir le choix. Je dirais 2-1 pour le Real Madrid, un but de Rodrigo.
Et sur la double confrontation?
Sur la double confrontation, c'est compliqué. Faudrait voir sur les prochaines semaines ce qui arrive. Maintenant, je pense que City reste quand même net favori. Le Real, c'est vrai qu'il y a quand même des postes vacants. Enfin, quand tu mets Tchouaméni en défense centrale, c'est bien beau. Le Real n'a jamais perdu avec Tchouaméni, mais ça reste quand même un positionnement assez lunaire entre guillemets. Et donc, je pense que sur la double confrontation, je vois quand même City s'imposer.
Cédric, sur qui va se qualifier pour les demi-finales selon toi?
Match aller, match nul et victoire de City au match retour.
Oh, c'est annoncé. J'aime bien, c'est sec, c'est précis, c'est... Ah, c'est pas besoin d'arguments, c'est...
Non, mais je me base sur les stats, en fait.
Ouais.
Il y a, c'est des matchs serrés, hein, parce qu'on a trois victoires sur les dernières confrontations pour Manchester City, trois nuls et quatre victoires pour le Real. Donc à ce niveau-là, c'est clair que c'est compliqué de vraiment trouver un favori, mais je pense que City est peut-être plus fort sur le papier.
Très bien.
Il suffit que tu aies un bon Haaland. Voilà. C'est souvent. Alors, c'est vrai que c'est pas en Ligue des Champions où il performe le mieux, mais bon.
Ça reste le meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement. Quand
voilà,
même.
Ouais, mais on sait que souvent quand on arrive vers les phases finales, c'est là où il est moins performant.
Ouais. On verra.
Faut qu'il corrige le tir. Voilà.
En tout cas, le Real, il veut mettre tout de son côté, parce qu'ils ont demandé à ce que le stade soit fermé ce soir, pour que le bruit des supporters assomme les Mancuniens.
On va passer à Arsenal Bayern Munich rapidement, une grosse confrontation. Clément, je vais recommencer par toi.
Arsenal.
Plus Arsenal sur la double confrontation?
Oui.
Ok, simple, pareil, simple, efficace. Moi, on est en retard, donc ça me va. Mathéo, est-ce que tu veux
Je veux pas trop me rallonger, mais je dirais Arsenal, leader de première ligue, donc c'est plutôt facile de faire le lien. Maintenant, le Bayern est sur la pire saison peut-être des 15 dernières années pour eux. Donc,
clairement.
Voilà, je pense que après c'est la magie du football, mais actuellement la dynamique est inverse à celle de la dernière confrontation entre les deux clubs, parce que le Bayern avait gagné 5-1. Mais voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, je dirais que Arsenal est très largement favori. Maintenant, voilà, là c'est un match à l'Emirates. Je dirais que Arsenal gagnera sur ce match-là. Par contre, le match retour compliqué à l'Allianz Arena, c'est toujours très difficile.
Ouais, je partage un peu ton avis. Je pense que le Bayern peut se faire sortir sur cette double confrontation. Cédric, toi t'es plus...
Le cœur dira toujours Arsenal, forcément.
Ouais.
Mais faut se méfier des Bavarois.
Bah c'est ce que je me dis aussi, parce que ça... Ça reste quand même une équipe très forte.
Ouais. Oui, oui. Je me dis, ils ont plus rien vraiment à perdre.
Kane qui a marqué déjà 80 buts depuis le début de la saison, c'est quand même...
Soit ils vont faire une saison complètement dégueulasse, soit ils vont se sauver par cette coupe. Donc.
C'est toujours ça, hein, Chelsea 2012 qui fait 6e de PL. Je pense que les supporters de Chelsea gagnent un très bon souvenir de...
C'est pour ça, c'est pion. Le Bayern, c'est quand même...
Une institution.
Une institution,
des champions. La compo, elle est quand même très, très
retour
bonne.
Retour de Kane à Londres.
Peut-être pas la défense, mais en tout cas, ça reste très bon. PSG-Barça, on a déjà un petit peu pronostiqué. Donc, la semaine dernière, Clément, rappelle-moi, tu avais pronostiqué plus le PSG.
Bien sûr.
On supporte les clubs français.
Oui.
Les gars, j'ai pas eu vos sentiments là-dessus. Encore une fois, on reparle de la qualif. Mathéo, t'es plus Barça ou PSG?
Pour moi, c'est actuellement, en tout cas, c'est impronosticable parce que ça va dépendre juste de l'état de forme des joueurs du Bayern. Maintenant, actuellement, je dirais du Barça. Pardon, je suis encore dans la rencontre d'avant. Non, ça dépendra de l'état de forme des joueurs du Barça, mais je pense que le PSG reste quand même actuellement net favori. De par déjà la présence d'Mbappé, ça c'est une certitude, mais aussi de par les formes, entre autres, de Vitinha et d'autres joueurs.
Cédric,
je partirai sur PSG, mais je me dis que de toute façon, ils ont plus cette espèce d'épée de Damoclès avec la remontada. Cette équipe des PSG, il n'y a quasiment plus personne qui l'a connu ce match-là.
Puis ils les ont rebattus entre temps.
Voilà, surtout, c'est le coach du Barça qui est désormais
au PSG. Et puis après,
il y a trois résistants.
Il doit y avoir Marquinhos.
Il y a Marquinhos, Sergi Roberto et Luis Enrique. Kurzawa, il est pas inscrit en Ligue des Champions, Kurzawa. Donc, trois en tout de, résistants.
T'as dit Marquinhos, du coup?
Marquinhos, Sergi Roberto et Luis Enrique.
Ah oui, dans les deux confrontations, voilà. Oui, d'accord, oui, ok. Dans les deux équipes.
Après, le Barça, je sais pas.
C'est assez imprévisible.
Il n'y a plus d'âme dans cette équipe.
Ouais, mais c'est quand même assez imprévisible.
Mais par contre, quand il se réveille, ouais, c'est ça.
Là, ça va un peu mieux, là, avec.
Petit des coups Barcy, tout ça. Franchement, ça reste des joueurs impressionnants.
On verra ça avec Yamal aussi qui sera à surveiller. Pour le dernier, c'est
l'importance de marquer des buts. Dès le premier match,
oui, c'est pour par l'importance, ils ont mis 4-0 à l'aller en 2017.
C'est vrai.
Non, mais t'as raison. C'était quand même de l'exceptionnel. Tu vois, tu as totalement raison.
On sait tout ce qu'il y a autour de l'arbitrage aussi, qui a été révélé depuis.
On va pas en reparler.
Mais quand tu vois, par exemple, la façon qu'ils sont qualifiés, mine de rien, le 2-0 au match aller a fait du bien.
Oui.
Pour jouer différemment et d'aller chercher les deux buts supplémentaires. Ouais,
même si c'était un autre adversaire.
Oui. Jouer dans la même optique, quoi.
Sur le dernier quart de finale, qui est peut-être le moins hypant, mais qui reste une belle confrontation assez indécise. Atlético Madrid contre le Borussia Dortmund, très rapidement, là pas besoin d'argumentaire parce qu'on est assez pressé. Clément,
moi je dirais l'Atlético, c'est l'adversaire du PSG après, donc Atlético.
Voilà, on rappelle, oui, ça, c'est, ouais. T'as raison de le rappeler. Mathéo,
je vais faire bref, mais je dirais Dortmund. Voilà, okay. Pour moi, l'outsider Dortmund qui réalise une super année 2024, vraiment exceptionnelle, qui vient de battre le Bayern et qui a fait revenir Sancho, recruté Yann Madsen entre autres. Donc voilà, pour moi, c'est des belles recrues, une belle équipe.
C'est vrai.
Je dirais Atlético, mais ça va être chaud après. Ça va être chaud contre Paris.
J'irai aussi sur Dortmund, qui je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais qui avait une bonne analyse. C'est vrai que l'Atlético de Madrid, on a l'impression qu'il préfère le statut d'outsider dans une rencontre plutôt que le statut de favori.
Oui, c'est vrai.
Et là, on est clairement cette physionomie-là où tout le monde les voit aller. On rappelle qu'ils ont quand même battu l'Inter, qui est leader de Serie A, qui est finaliste en titre. Donc ça reste. Donc voilà Dortmund et puis Sancho qui peut, ouais, voilà, refaire du.
Ça serait
du
la
bien,
revanche dans ce cas-là
pour le Borussia.
Si le PSG passe, Dortmund PSG revanche des poules.
Voilà. Et oui, exactement.
Et c'est surtout que ça va faire deux demi-finales où là ça va être dur, je pense, de prédire.
Ouais, et je tiens juste à dire aussi que Hummels fait une saison exceptionnelle, sans doute l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Donc voilà, à surveiller.
Ça va être intéressant de voir ça. Voilà pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Avant Clément de passer au rugby et aux résultats de Champions Cup, je vais rappeler qu'il y a deux clubs en juin qui jouent en ce moment même. C'est le SCO Handball et l'EAB. L'EAB qui est mené donc sur le parquet de Nantes 55-39. Il me semble que c'est la pause. Et puis le SCO Handball qui démarre bien son match face à Sarrebourg, avec donc pour l'instant 9 partout, même si les Angevins ont fait un petit peu la course en tête sur le début de la rencontre. Clément, c'est la Champions Cup en ce moment, et on a donc nos Français nos clubs français qui réussissent plutôt bien.
Ouais, ce week-end c'était les huitièmes de finale de Coupe d'Europe de rugby, donc la Champions Cup comme tu dis, et le top 14 était très représenté puisqu'on avait 5 équipes en huitième. Donc ce samedi, on jouait 3 des 5 équipes. Donc je le rappelle, c'est des phase à élimination directe. Donc il y a pas de match aller-retour comme on peut le voir au foot. Donc ça a commencé avec les Loups, donc Lyon, qui s'est lourdement incliné sur le terrain des Bulls, 59-19. Ensuite, c'était au tour de La Rochelle qui se déplaçait en Afrique du Sud. Oui, parce que les équipes d'Afrique du Sud, depuis un an, peuvent jouer en Coupe d'Europe. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Mm-hmm. Et c'est encore une fois un exploit, ou plutôt une remontada qui a sauvé le Stade Rochelais. Après la victoire en finale l'année dernière face à Leinster en étant mené 17-0. Cette fois-ci, ils étaient menés 16-0 à la 45e. Et ils se sont imposés d'un petit point, 22-21. On le rappelle, les Rochelais sont vainqueurs depuis deux éditions. Et ils vont donc tenter de remporter pour la troisième fois cette année. Et pour finir, on a encore une grosse performance de Bordeaux-Bègles qui se sont largement imposés 45-12 face au Saracens, qui est l'un des clubs les plus titrés d'Europe. Ensuite, dimanche, on avait le dernier match avec des équipes françaises, puisque celles-ci ont joué l'une contre l'autre. Il s'agissait du second et du troisième de top 14, donc Toulouse et le Racing 92. Et c'est Toulouse qui a emporté avec facilité ce match 31-7. On connaît les affiches d'écart qui auront lieu ce week-end. Donc Bordeaux recevra les Harlequins à 16h samedi. Ensuite, La Rochelle se déplacera en Irlande pour affronter le Leinster, donc la revanche de la finale de l'année dernière, qui se jouera à 18h. Et pour finir, Toulouse recevra Exeter dimanche à 16h. Nos trois équipes sont en capacité de se qualifier. Maintenant, affaire à suivre.
Très bien, bah merci Clément.
Match compliqué quand même.
Pour La Rochelle ?
Pour La Rochelle.
Ah oui, c'était très compliqué.
Ça a été compliqué à mon avis.
On verra ça. Merci Clément pour le point rugby. Pour la NBA, on va pas avoir le temps de faire un point sur le classement, mais on compte sur Faustin ou sur d'autres chroniqueurs pour le faire, le point sur les playoffs et play-in qui auront lieu dans quelques semaines, et puis surtout les tendances qui vont commencer à se dégager dans les prochains jours.
En gros, c'est serré partout. Il y a juste les Celtics qui roulent sur la concurrence.
D'accord, voilà. Très bien. Merci pour ce point très rapide.
C'était Clément. La météo de la NBA.
Merci Clément. Rapidement sur les dernières infos qu'on va avoir à vous donner. En Formule 1, nouvelle victoire ce week-end de Max Verstappen au Grand Prix du Japon, qui reste leader au classement des pilotes devant Sergio Perez et Charles Leclerc. En tennis, c'est le début de la saison sur terre battue, avec notamment en ce début de semaine le commencement du Masters 1000 de Monte Carlo à Monaco. Pour l'instant, donc, deux gros forfaits sont à noter. Celui de l'Espagnol Carlos Alcaraz et de son compatriote, évidemment légende, Rafael Nadal. Et il y a forcément aussi une crainte qui demeure quant à sa présence à Roland-Garros. En cyclisme, victoire ce week-end de Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel, qui s'est imposé à Paris-Roubaix une semaine après son succès au Tour des Flandres. Il s'offre un nouveau classique. Et donc voilà, on rappelle le petit-fils de Mathieu Poul, Raymond Poulidor, pardon, qui voilà remporte encore une fois un classique. Tu allais dire
oui, bah il y a eu aussi une chute très longue.
J'allais en parler, ouais, vas-y.
À de Vingegaard et Van Aert, donc l'équipe Jumbo-Visma qui a pris cher, pardon Roglic pour l'expression.
Aussi,
oui, bah oui. Et donc oui.
C'était donc autour du Pays Basque.
C'est ça.
Et donc voilà une polémique, une chute qui a provoqué la polémique avec donc des séquelles assez importantes pour Vingegaard,
bah, qui a joué Roglic, même sur
ou encore Van Aert.
Sur Paris-Roubaix. Hein.
Oui, c'est bah,
ça,
oui,
ils ont demandé un aménagement un peu insolite sur l'arrivée de quand ils arrivent au niveau des pavés.
Ah oui.
Qui fait un petit peu discussion dans le monde du cyclisme.
Ouais, une espèce de chicane, on peut dire.
Oui, c'est ça.
Chicane pour ralentir. Donc,
ouais. Voilà. Mais après, c'est pas Jumbo Visma qui avait dit
non, non,
ça.
Non, non, oui, mais oui, c'est okay, une conséquence de ça dernière. Oui. Il y a eu ça comme.
On termine également par.
Oui, moi j'avais c'est par rapport au basket encore, il y avait la finale d'Eurocoupe qui se joue en ce moment même,
oui, c'est
et
vrai.
C'est Paris Basket qui à la fin du premier quart-temps est devant 23-11 face à Bourg-en-Bresse.
Ouais, très très important puisque donc voilà, il y a cette finale entre Paris et Bourg-en-Bresse. Le vainqueur donc de ce match, de cette finale d'Eurocoupe, sera qualifié pour l'Euroleague pour la saison prochaine. Au niveau du handball, dernière petite information, Montpellier et le Paris Saint-Germain se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils joueront deux favoris au Final Four, respectivement donc Kiel et le FC Barcelone. Paris qui d'ailleurs ce week-end a perdu son premier match de la saison en championnat contre Nantes, ce week-end donc 32-30. Voilà pour toute l'information locale et internationale. Je pense qu'on a été très complet. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs. Cédric ?
Il y a un concours qui va arriver.
Il y a un concours, effectivement, on peut l'annoncer. Un concours sur nos réseaux sociaux pour essayer de gagner des places pour 4 fois de place, c'est ça, Cédric ?
Oui, c'est ça.
Pour gagner des places pour la tournée de l'équipe de France qui a lieu donc ce week-end, le dimanche 14 avril, à l'Ice Park, avec donc voilà plein de stars du patinage artistique français qui seront présents. Si vous voulez assister à cette espèce de... c'est un gala. Hein.
C'est un gala.
C'est ce gala. Eh bien voilà, essayez de rendez-vous donc sur nos pages pour essayer de gagner.
Ça va aller très rapide, hein, puisque on va faire le tirage mercredi soir.
C'est ça, pour essayer de gagner les places. Voilà, n'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir tout ça. On se retrouve donc la semaine prochaine avec je sais pas si les gars vous serez tous là.
Moi je pense que je serai là.
Si oui, je serai là aussi.
Évidemment, tu es le bienvenu. C'est vrai que tu seras là aussi. Peut-être. Bon, on verra.
Pour débriefer la victoire du PSG.
Exactement, peut-être. On espère que Faustin sera là aussi. On vous souhaite une bonne fin de soirée sur Radio G. On vous laisse avec la suite des programmes. Et puis, nous, on se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.